Vous écoutez, on lit pour vous.
Sensibiliser les ados aux menstruations. Un texte de Louise Touté, paru le 6 juillet 2025 dans La Presse. Il y a 4 ans, une élève de Roxane Dubé-Rémiard s'est crue au seuil de la mort. Elle avait demandé à sa petite sœur d'aller annoncer à leur mère qu'elle mourait. L'élève était loin d'être en danger de mort. Elle avait simplement ses premières règles. Sa mère lui en avait toujours caché l'existence. C'est vraiment un traumatisme que cette personne a vécu. Pour éduquer les adolescents aux menstruations, briser les tabous autour du sujet et éviter qu'une telle histoire se répète, l'initiative La Semaine Rouge encourage les écoles à mener une semaine de sensibilisation menstruelle. À l'école secondaire Saint-Jean-Baptiste, à Longueuil, où la plupart des élèves sont issus de l'immigration, le premier événement du genre a suscité de l'étonnement, de la gêne, mais elle a aussi favorisé des échanges. Table de démonstration de produits menstruels à l'entrée de l'école, jeux questionnaires sur les règles dans la cafétéria, babillard sur la précarité menstruelle dans le couloir principal. Le but avoué de Roxane Dubé-Rémiard, qui a piloté l'événement en novembre dernier, était de prendre de la place dans l'espace scolaire pour parler de menstruation. Parce que c'était la première fois, il y a eu une grosse réaction, témoigne la professeure, qui a vu des élèves incrédules devant les différentes affiches. Les activités organisées s'adressaient à tous, filles comme garçons. Le message, les menstruations concernent tout le monde et on devrait pouvoir en parler sans gêne. J'ai l'impression que le tabou sur ce sujet a été brisé au niveau de l'école, mais aussi pour moi, témoigne Mojgan Mir Sadeghi Varzane, une élève d'origine iranienne de 4e secondaire. C'est plus normal pour moi-même d'en parler qu'avant la Semaine Rouge. Une occasion d'échanger. La visite d'une infirmière le midi a permis d'informer les élèves sur les menstruations et de répondre à leurs questions. Ce rôle de vulgarisation est jugé crucial par bien des élèves dans cette école où près de la moitié d'entre eux sont nés à l'extérieur du pays. Dans la famille de certaines personnes, c'est un sujet tabou, témoigne Exaucy Mutombo Nsenga, originaire du Congo. Si tes parents ne t'ont pas encore expliqué ce que sont les menstruations lors de tes premières règles, tu penses que c'est quelque chose que tu as fait, que c'est de ta faute? C'est trop de stress. En milieu de semaine, des trousses menstruelles gratuites ont été distribuées. Dans ce milieu défavorisé où l'école fournit le petit déjeuner aux élèves, Roxane Dubé-Rémiard est convaincue que le coût des produits sanitaires est un enjeu pour de nombreuses familles. Ce fut l'occasion de discuter de précarité menstruelle, soit la difficulté d'accéder à des produits menstruels faute de moyens, avec des élèves qui la vivent dans le secret. La semaine se voulait aussi un moment d'échange, notamment lors de la projection d'un film sur les menstruations dans différentes cultures. Plusieurs élèves nous ont dit que la tradition dans leur pays, c'est que la grand-mère donne une tape dans le visage des jeunes filles après leurs premières règles, déplore Roxane Dubé-Rémiard. À sa surprise, même les garçons se sont prêtés au jeu. des garçons sont venus et ont parlé des différentes infusions que leur mère prenait quand elles étaient menstruées. Un mouvement québécois. La semaine organisée à l'école Saint-Jean-Baptiste avait des allures de banc d'essai pour Serena Québec et le Réseau québécois d'action pour la santé des femmes, RQASF. Les organismes à but non lucratif à l'origine de la Semaine rouge. Les deux premières éditions de l'événement, en 2022 et en 2023, avaient pris la forme d'ateliers en ligne. Malgré une réponse enthousiaste, 700 inscriptions en 2022, les organisatrices ont constaté qu'il fallait aller sur le terrain pour capter l'attention des adolescents. À l'époque, les initiatives de la RQASF autour des menstruations recevaient un accueil mitigé des associations féministes et de santé des femmes. On craignait que mettre ce sujet de l'avant soit pris comme un signe de faiblesse par rapport aux hommes, témoigne sa directrice générale, Élise Bruno. Mais les choses ont évolué ces dernières années. Les groupes s'emparent du sujet aujourd'hui, notamment autour de l'aspect de la précarité menstruelle. Malgré le succès de la première « Semaine rouge » à l'école Saint-Jean-Baptiste, la gêne autour du sujet demeure présente. La « Semaine rouge » enrichit les personnes culturellement, mais risque aussi de ramener des propos négatifs. Parce que certaines personnes, lorsqu'elles sont mal à l'aise, réagissent en faisant des blagues sur le sujet ou en insultant. Témoigne Ali Abou Chadi, élève de 4e secondaire, originaire d'Égypte. Riche de l'expérience de Roxane Dubé-Rémiard, la 3e édition de la Semaine rouge aura lieu en 2026. 10 établissements se sont déjà inscrits. C'était « Sensibiliser les ados aux menstruations ». Un texte de Louise Touté, paru le 6 juillet 2025 dans La Presse.
Immobilier. Pourquoi les promesses d'achat sont-elles secrètes? Un texte d'Isabelle Dubé, paru le 2 août 2025 dans La Presse. Marcel Nollet, un lecteur, demande « Pourquoi les acheteurs de maisons n'ont-ils pas le droit de connaître les offres des autres acheteurs? Il y a eu des cas où un acheteur a bonifié son offre inutilement et a donc payé trop cher. Cela semble juste contribuer à l'augmentation du marché immobilier et profiter aux agents immobiliers, non? Il est fréquent qu'un acheteur qui se lance dans le magasinage d'une propriété soit surpris par cette règle. Elle provient du règlement sur les conditions d'exercice d'une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité de la loi sur le courtage immobilier. Le paragraphe 96 indique que le courtier ou le dirigeant d'agence doit, lorsqu'un autre titulaire d'un permis collabore à la réalisation d'une transaction, lui révéler l'existence de toute proposition de transaction, qu'elle soit acceptée ou non. Il ne peut cependant lui en dévoiler le contenu. C'est l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, OACIQ, qui doit surveiller que la loi sur le courtage immobilier soit respectée, et c'est le ministre des Finances du Québec qui a le pouvoir de modifier cette loi. Pour l'instant, le ministre des Finances n'a pas fait part d'une intention de changer les règles au sujet des enchères à l'aveugle. L'application de ce règlement fait en sorte que, lorsque plusieurs acheteurs sont en compétition pour acquérir la même propriété, le courtier immobilier doit aviser chacun des acheteurs toutes les fois qu'une nouvelle promesse d'achat vient d'être déposée, toujours sans révéler le montant des offres. Les acheteurs qui ont fait une promesse d'achat peuvent alors offrir encore plus d'argent au vendeur sans savoir s'ils lui ont déjà proposé le montant le plus élevé. Plusieurs cas documentés relèvent des situations où un acheteur a payé de 10 000 à 40 000 $ de plus pour obtenir en surenchère une propriété alors qu'il avait déjà fait la promesse d'achat la plus élevée. Est-ce que les promesses d'achat faites à l'aveugle font grimper le prix des propriétés en général? Aucune conclusion claire n'est ressortie jusqu'à présent. Experts et études se contredisent. Le marché canadien n'a pas fait l'objet d'une étude précise sur ce sujet. La question a été débattue à l'Assemblée nationale à coup de consultation publique en 2021, de mémoires, de comptes rendus d'études faites dans d'autres pays, d'opinions de lobbies qui défendent leurs intérêts et enfin, de nouvelles consultations en 2025 dans le cadre du projet de loi 92 qui n'ont rien changé à ce sujet. En Ontario, depuis le 1er avril 2023, le vendeur peut divulguer le prix des offres qu'il reçoit. Ce n'est pas obligatoire. Dans une transaction, il y a l'acheteur qui veut payer le moins cher possible et le vendeur qui veut obtenir le meilleur prix possible. Si le vendeur et le courtier qu'il représente ont l'impression que les enchères à l'aveugle permettront d'obtenir un meilleur prix, ils seront tentés de choisir cette option. Lorsque la rémunération des courtiers immobiliers est en fonction du prix de vente, plus le montant de la transaction est élevé, meilleure est la commission. C'était « Immobilier, pourquoi les promesses d'achat sont-elles secrètes ?» un texte d'Isabelle Dubé paru le 2 août 2025 dans La Presse.
Observer les phoques sans leur nuire. Un texte d'Alexandre Shields paru le 16 juillet 2025 dans Le Devoir. Leur bouille sympathique suscite la curiosité lorsqu'on se retrouve en leur présence sur l'eau ou sur le rivage du Saint-Laurent. Mais s'il est tentant de s'approcher des phoques qu'on peut observer ici, la réglementation fédérale est claire. Il est illégal de perturber ces mammifères marins qui sont souvent victimes de dérangements, ce qui peut nuire à leur survie. Les gens s'approchent des phoques qui sont très mignons. Ça peut nous faire oublier les bons gestes à poser pour réduire le dérangement de ces animaux. C'est un privilège de pouvoir les observer, mais comme pour tout animal sauvage, il faut garder ses distances. Si un phoque est dérangé, surtout à répétition, ça peut avoir des conséquences négatives sur sa survie, explique Patrick Weldon, directeur de l'unité de gestion et de conservation du réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins, RQUMM. Les occasions de croiser le chemin d'un pinnipède au repos sur une plage ou sur des rochers, ou alors de se retrouver près de lui en bateau ou en kayak, sont nombreuses dans l'estuaire et dans le golfe du Saint-Laurent. C'est le cas, notamment, pour les touristes qui prennent la route chaque été pour profiter des paysages naturels appréciés que représentent les milieux marins québécois. Des entreprises d'excursions en kayak, de croisière et de plongée font même la promotion de l'observation, parfois de très près, des phoques qu'on retrouve dans nos eaux. Les espèces ciblées sont surtout l'imposant phoque gris, qui est très abondant, mais aussi le phoque commun. Cette dernière espèce est la seule à résider en territoire québécois toute l'année. Elle n'est pas en surpopulation et elle a souffert des effets de la grippe aviaire, qui a provoqué de nombreuses mortalités. Interaction interdite. Le phoque commun étant parfois peu farouche, les photos et les vidéos de promotion d'entreprises ou de simples touristes mettant en vedette ce pinnipède sont d'ailleurs nombreuses. On cohabite avec les phoques lorsqu'on se retrouve sur les rives du Saint-Laurent ou sur l'eau, en bateau ou en kayak. Mais il ne faut pas interagir avec eux. Ce sont des animaux qui peuvent être agressifs et qui peuvent mordre. Il y a aussi des périodes où ils doivent demeurer hors de l'eau, que ce soit pour le repos ou alors la mue. Ils ont besoin de tranquillité, fait valoir le directeur de l'unité de gestion et de conservation du RQUMM. La réglementation fédérale interdit d'ailleurs de perturber un mammifère marin, précise le ministère Pêche et Océans Canada, MPO. Ce dérangement est défini comme étant le fait de s'en approcher, dans l'intention notamment de nager ou interagir avec lui, l'attirer ou provoquer son déplacement, le séparer des membres de son groupe, le nourrir, ou encore placer un bateau de façon à le coincer ou coincer le groupe dans lequel il se trouve, entre l'embarcation et la côte. Quelle que soit l'approche anthropomorphique qu'on peut adopter en imaginant que ces animaux curieux apprécient notre présence dans leur habitat et qu'ils ne sont donc pas perturbés, cette perception est trompeuse, soutient Patrick Weldon. Dès qu'un animal change son comportement à cause de notre présence, on interagit avec l'animal. Si le phoque lève la tête, nous regarde ou se déplace, c'est un premier niveau de dérangement, illustre-t-il. Que ce soit en bateau ou en kayak, il faut rester loin, ajoute-t-il. On peut voir des vidéos de phoques curieux qui s'approchent des kayaks. Il faut alors s'éloigner, parce que c'est une forme de dérangement. Notre présence dans l'écosystème peut être perçue comme une menace ou alors provoquer une réaction où l'animal vient voir ce qui se passe, ce qui le détourne de ses activités normales. Ça peut avoir un impact. Parc Canada assure d'ailleurs faire respecter la réglementation de MPO, par exemple dans le parc Forillon où on observe régulièrement des phoques qui peuvent se regrouper notamment dans des échoueries. Ce genre de concentration de pinnipèdes est un comportement naturel chez les phoques, qui peuvent se regrouper ainsi dans des sites propices au repos. Au parc national Forillon, précise Parc Canada, une distance de 100 mètres d'une échouerie doit être respectée lors des activités afin d'éviter de déranger les phoques. Circuler à répétition en groupe de kayak au milieu des phoques et près de leur lieu d'échouage ne constitue pas nécessairement une perturbation, au sens du règlement sur les mammifères marins. Comment le fédéral détermine-t-il s'il y a une infraction? Une inspection ou une enquête doit être menée par les agents des pêches, précise-t-on. Jeunes phoques du printemps. Au-delà des enjeux de cohabitation avec les phoques du Saint-Laurent en saison estivale, le RQUMM traite chaque année, surtout de mai à juin, plusieurs cas de jeunes phoques communs qui sont victimes de dérangements sur le rivage, parfois en dehors de leur habitat naturel. Les jeunes phoques communs attirent aisément la sympathie. Il faut dire que si l'animal est seul sur une plage, il peut sembler en détresse, malade ou alors abandonné hors de l'eau, surtout lorsqu'il pousse des cris plaintifs. Qui plus est, les femelles, souvent solitaires, mettent bas au printemps sur les rives du Saint-Laurent, dans des secteurs souvent fréquentés ou habités. La recette parfaite pour que ces mammifères soient dérangés au point que leur survie soit parfois compromise. Or, dans la plupart des cas, il s'agit tout simplement de phoques qui se reposent entre deux allaitements, alors que la mère est retournée à l'eau pour se nourrir. Se retrouvant face à ces petites bêtes émouvantes et en apparence fragiles, les passants font néanmoins des gestes illégaux, tout en croyant les secourir. Le plus souvent, ils tentent de les remettre à l'eau, ce qui accroît la détresse de l'animal et peut pousser sa mère à l'abandonner. Certains essaient même parfois de les nourrir ou de les déplacer, croyant les mettre en sûreté. Patrick Weldon invite donc les promeneurs à respecter une distance d'au moins 50 mètres de ces animaux, mais aussi à tenir leurs chiens en laisse. Il ne faut jamais tenter de s'approcher ou de toucher les phoques. Comme plusieurs l'ont fait cette année en présence de jeunes phoques du Groenland, les fameux blanchons. Le plus souvent, un animal de quelques jours à peine ainsi dérangé sera condamné à agoniser sur place, ce qui pousse des gens à contacter le RQUMM. Protéger les bélugas du dérangement. les bélugas du Saint-Laurent doivent vivre toute l'année en présence du trafic maritime, qu'il s'agisse des navires commerciaux ou des bateaux de plaisance, qui sont particulièrement nombreux en période estivale dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Parc Canada impose toutefois une réglementation pour réduire les répercussions de cette présence dans l'habitat essentiel du cétacé en voie de disparition. Dans le parc marin, précise le ministère, toute embarcation doit conserver une distance minimale de 400 mètres avec les espèces menacées ou en voie de disparition, telles que le béluga, le rorqual bleu et la baleine noire. Qui plus est, les kayakistes à moins de 400 mètres d'un béluga doivent continuer à pagayer et garder un cap en s'éloignant. Le parc marin a également instauré une fermeture estivale à la navigation dans la baie Sainte-Marguerite, qui est située dans le Saguenay, en amont de Tadoussac. Environ 90% des troupeaux observés dans ce secteur sont composés d'adultes et de jeunes, et 50% comprennent des nouveaux-nés. Le parc marin doit normalement être agrandi au cours de cette année. Concrètement, cela signifie que la superficie de l'estuaire du Saint-Laurent couverte par l'aire de conservation, qui est actuellement de 1245 km², pourrait atteindre près de 4500 km². Les limites s'étendraient ainsi jusqu'à l'île aux Coudres, en amont, et jusqu'au parc national du Bic, en aval. En incluant le secteur de Kakuna, considéré comme une pouponnière pour le béluga. C'était « Observer les phoques sans leur nuire », un texte d'Alexandre Shields paru le 16 juillet 2025 dans Le Devoir.
Nick Martin fait un malheur sur BookTok. Une entrevue réalisée par Samuel Lerochelle, parue le 21 juillet 2025 dans le magazine Fugue. Avec 1 million de mentions « J'aime » sur TikTok, plus de 62 000 abonnés et des vidéos vues des centaines de milliers de fois, le Montréalais Nick Martina prouve l'attrait grandissant pour les opinions littéraires vivantes, nuancées et accessibles, ainsi que pour les recommandations de livres queer incontournables. Quand as-tu commencé à partager tes impressions de lecteur? En 2020, durant la pandémie, j'ai remarqué que beaucoup de gens parlaient de lecture sur TikTok. J'utilise les plateformes depuis toujours, mais je n'avais jamais fait ça. Tranquillement, j'ai tissé des liens avec d'autres créateurs de contenu sur la littérature. J'intervenais en commentant leurs vidéos. Ils me posaient des questions. Puis j'ai décidé de faire ma première vidéo. Au début, je ne montrais pas mon visage et je ne parlais pas. Peu à peu, les choses ont changé. Nous voici aujourd'hui 5 ans plus tard. Comment expliques-tu ton succès? Je crois qu'il y a un besoin pour des personnes qui parlent de livres de façon plus nuancée. Quand les gens pensent à BookTok au premier niveau, ils manquent souvent de nuances. Les gens détestent ou adorent, et ils ne parlent pas vraiment de l'histoire. De mon côté, j'ose croire que j'en parle de façon plus recherchée. Même si je fais parfois des vidéos où je présente plusieurs livres très rapidement et que ça pogne, je ne fais pas ça pour ça. J'essaie surtout de m'amuser, d'utiliser la plateforme de façon organique et de proposer régulièrement des livres dont les gens n'ont jamais entendu parler. Jusqu'à tout récemment, les gens ignoraient que tu étais un Québécois qui parle aussi français. Pourquoi? TikTok aime le contenu niché. Quand tu sors de ta zone pour parler d'autre chose, ça ne fonctionne pas et ça te fait rejoindre des gens qui font des commentaires médium saignants. Tu sais tout de suite quand tu publies une vidéo qui rejoint un public qui n'est pas celui que tu avais en tête. Donc, en restant dans la case de la littérature anglophone, c'était plus confortable et j'appréciais ma communauté. Cela dit, je lis dans les deux langues depuis toujours. Au cours des dernières années, j'ai constaté que je lisais beaucoup plus en anglais et je me suis fixé un but personnel de lire autant en français. Je me suis dit que si j'en parlais publiquement, il faudrait que je le fasse pour vrai et que je sois tenu de continuer. As-tu un diplôme en littérature ou en création littéraire? Non. J'ai suivi des cours au cégep et à l'université en création littéraire, mais rien de trop concret. J'ai fait mes études en marketing. Cela dit, je crée aussi de mon côté. Comme j'écris en anglais, j'ai développé un sens critique sur mon travail en lisant souvent en anglais. Quelle est ton occupation principale? J'ai fait toute ma carrière en marketing. Je suis passé par les réseaux sociaux, le copywriting, le marketing digital et le marketing d'influence. Aujourd'hui, je me spécialise en partenariat marketing-influence et en brand marketing, images de marque, projets spéciaux, développement de marque, etc. Toutes les étapes de mon parcours en marketing ont un impact sur ce que je fais sur les réseaux sociaux. Où peut-on lire ton travail créatif? J'écris sur Substack et j'ai été publié dans plusieurs magazines et journaux. Je viens d'écrire un texte commandité pour Hinge. J'écris surtout de la fiction et de la poésie, dont un roman qui n'est pas encore publié. Dans le cadre de Fierté Montréal, as-tu 3 suggestions de livres queer? Le Straight Park de Gabrielle Cholette. C'est un des meilleurs livres que j'ai lus cette année. On est à l'intersection du monde queer montréalais et bilingue. Je me suis beaucoup reconnu dans sa façon de présenter l'aspect bilingue de la ville. Valide de Chris Bergeron. J'adore son univers. Son livre est conçu de manière tellement unique. C'est un mélange d'autofiction et de science-fiction qui parle d'intelligence artificielle et de transidentité. Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson, un classique. Comme c'est l'été, ça me fait penser à lui. Il me fait pleurer comme ça ne se peut pas. Je suis très intéressé par le passé et le présent qui sont en conversation comme dans son livre. Quel est ton livre queer préféré de tous les temps? In the Dream House de Carmen Maria Machado. C'est le mémoire d'une femme queer qui vit une relation abusive. On la suit avant, pendant et après. Chaque chapitre vient réinventer l'histoire. C'est impossible à expliquer, mais c'est tellement bon. Combien de temps consacres-tu à la lecture? Je lis plus d'une centaine de livres par année, soit environ 2 à 3 par semaine. Je lis surtout le soir avant de me coucher. Je pense toujours à la lecture et à l'écriture. C'est une histoire sans fin. C'était Nick Marna fait un malheur sur BookTok, une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 21 juillet 2025 dans le magazine Fugue.